Eh bien, merci à toutes et à tous de vous rassembler autour de dans cette pièce, dans cette bibliothèque, dans la Fondation Thalie pour la seconde, le second volet de ces, je dirais pas des leçons de philosophie, mais de ces recherches dont je vous fais part autour d'un thème qui est celui de l'œuvre, la vie et les manières d'existence, les styles d'existence. Alors je remercie encore une fois Nathalie Guillot et Julien Michel pour cette invitation, qui, je vous le cache pas, me fait beaucoup travailler et m'intimide aussi, parce que c'est un cadre à la fois formidable, parce qu'il s'inscrit ici dans des lieux de production, de réflexion et de pensée, de l'art ou de la production d'objets culturels, en tout cas en dehors des cadres académiques, institutionnels, officiels, et en même temps voilà, aussi intimidant, parce que nous sommes un petit comité, et je parle à des amis, je parle à des connaissances, je parle à des étudiants de la Cambre, et donc il n'est pas facile quand on fait part d'une recherche, qui est lié en grande partie quand même à un travail que j'ai entamé il y a quelques années sur Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, qui est voué à devenir un livre, j'espère, bientôt. Il n'est pas facile de sortir d'abord sa tête de ses pages et de la levée du guidon, cette tête, et donc d'être sûr, quand on prépare le travail là-dessus, de tenir un propos qui puisse intéresser autre chose que quelqu'un d'autre que soi, qui puisse intéresser le monde dans lequel on vit, quoi. Donc c'est un peu voilà, une épreuve, une ébauche et une tentative de mettre en partage quelque chose qui est toujours au travail. Alors j'étais parti et j'étais resté la fois dernière sur la question du au nom de, et c'est ce qui, je pense, fait pas mal le lien avec, fait bien le lien avec la situation qu'est la nôtre aussi, au nom de quoi, aujourd'hui, on peut se revendiquer d'une pensée qui soit efficiente, qui puisse se traduire dans le réel, et qui puisse, quelque part, être un baromètre pour l'action. Et j'avais terminé avec ce penseur que j'affectionne particulièrement, qui est Rainer Schurmann, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des hégémonies brisées », au début des années 90, et qui, après une lecture radicale d'Heidegger et des événements du XXe siècle, en était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus aucun référent ultime, qu'il n'y avait plus de principe hégémonique qui puisse guider l'action, qui puisse être l'aune à laquelle nous jugions un engagement dans le monde et à l'aune duquel on puisse évaluer l'efficience d'une pensée. Alors, pour ne pas revenir sur cet extrait de Schurmann qui était quand même un peu long et peut-être un peu abrupt, je vais juste citer pour en introduction à cette séance un des rares qui parle de Schurmann encore aujourd'hui et qui en fait quelque chose, qui est Giorgio Agamben. Et dans un de ses livres qui est paru il y a quelques années, il en donne quelque part une traduction de ce problème de manière très simple, je pense, et très limpide. Et ce sera notre rampe de lancement pour ce questionnement sur le temps que je vous propose aujourd'hui. Alors j'espère que je vais tenir en une heure, parce que j'ai l'impression d'avoir préparé beaucoup de choses, parfois avec des tournants assez serrés, et j'espère que je vais pouvoir vous rendre compte de cette démarche dans des termes clairs et limpides. Mais ces propos d'Agamben sont ceux-ci. Il dit, c'est en 2015, « En dernière analyse, dans chaque question, dans chaque discours, dans chaque conversation, la question décisive est bien, au nom de quoi parlons-nous ? Art, philosophie, poésie, religion ont été transformés en spectacles culturels. Ils ont fini par perdre toute efficacité historique. Il s'agit de noms dont on parle, mais pas de paroles proférées au nom d'eux. » Voilà. Je pense que par la simplicité de ces phrases et ce propos, on met le doigt quand même sur quelque chose sur lequel, en tout cas moi, je me casse la tête depuis pas mal de temps, et qui est la question, en effet, et on le voit qu'elle perdure, enfin qui a été déjà posé de manière, je pense, singulière et inédite dans les années 20 et dans les années 30. C'est une espèce d'étalon hors de la question de la vie et de l'engagement, ces moments, en effet, où l'Europe bascule dans les fascismes et dans le nazisme. Mais on voit aussi que ça traverse, je pense à l'actualité récente, le siècle jusqu'à nous. Donc quand on voit, par exemple, des manifestations en France de Gilets jaunes, la question toujours, c'est au nom de quoi ? Et au nom de quoi certains parlent, ou au nom de quoi certains profèrent certaines choses, est-ce que ça peut se rabattre sur la globalité d'un mouvement ou pas ? Enfin, on voit qu'on n'est toujours pas sorti de cette question du « au nom de » et de ce que peut regrouper, du coup aussi maintenant, cette absence et ce vide et cet effondrement des principes à l'aune desquels on pourrait juger une action ou un engagement politique. Alors j'ai pris comme paradigme en effet ces années 20 et ces années 30 pour la lecture du temps à partir de quelques exemples épigoniques, on va dire, qui sont comme des épigones, pour essayer de sortir d'impasse ou de verbiage que je trouve un peu stérile, qui est toujours de renvoyer soit à la grandeur de l'œuvre, en excusant l'engagement de la vie personnelle d'un individu, ou bien de sauver la vie d'une personne au détriment de son œuvre qui est trop compromise avec un régime politique désastreux. Et donc c'est à partir de son nom que et de la question qu'il ouvre, qu'on peut se dire, tiens, pourquoi est-ce que, par exemple, j'essaie de prendre des exemples connus qui ont perduré jusqu'à nous et qui sont souvent encore célébrés, mais qui sont pour moi toujours problématiques. Alors, je vous en donne quelques-uns. Mais à partir d'où on peut comprendre et cerner leur engagement et la valeur et le statut de leur travail aujourd'hui, sans tomber dans le regard rétrospectif et sans tomber non plus dans la morale du « c'est bien ou c'est pas bien ». Mais je pense par exemple à des gens comme Mies van der Rohe, qui sont toujours célébrés comme des représentants d'un design ou d'une architecture aujourd'hui, dont souvent, je pense, on a du mal à se défaire, qu'on a du mal à remettre en cause, et qui restent comme des idéaux, comme ça, de ligne-forme parfaite, l'incarnation d'un progressisme, d'émancipation de l'individu. Mais Mies van der Rohe, par exemple, et on le verra, comment on peut lier ça à l'œuvre, ou comment on peut dissocier l'œuvre de la vie ou pas, mais est quelqu'un qui signe, quand Hitler arrive, un appel aux travailleurs créatifs dans le domaine des arts, pour appuyer la candidature d'Hitler au poste de président de la République. Il le fait dans l'Urbacter, qui est quand même déjà, pour beaucoup de gens, les futurs exilés et émigrés, la feuille injurieuse, débile et dégueulasse que les nazis impriment, et qui est énormément lue, évidemment, mais qui est une feuille de chou pour qui c'est un peu lire, quoi. Mais il se mouille dans ce genre de choses. Il participe aussi au concours en 1933 de la construction de la Reichsbank, sous l'égide donc déjà de Hitler. Et puis en 1934 encore, il concourt pour le pavillon allemand à l'exposition internationale de Bruxelles. Tous des faits qui sont généralement aujourd'hui complètement oblitérés ou évacués, comme si ces choses-là ne participaient pas ou plus du nom Mies van der Rohe. Comment penser aussi de la tutelle dans un Gropius, par rapport à la Corme, ça peut être intéressant, quand en 1933 et en 1934, il concourt aussi pour construire la Reichsbank, et puis qu'il adhère en toute liberté, au début du Reich, du Troisième Reich, à la Reichskultur de Kammer, donc à la chambre culturelle du Reich, sous l'égide de Goebbels. On peut penser aussi d'exemples comme Le Corbusier, où plus récemment, on a bien vu, par une correspondance sortie des archives, toute sa volonté d'existence auprès de Pétain. On peut penser aussi à des exemples plus classiques ou canoniques comme Münch ou Nolde, qui étaient parmi les plus grands représentants de l'expressionnisme et qui habitent toujours nos musées. Pourquoi ils ont toujours été, ils sont toujours célébrés après avoir vraiment, pour le coup, ou toléré ou soutenu le régime hitlérien. On peut penser à des trucs plus étranges aussi, comme Adorno, le philosophe qui, vous savez, est encore un classique des écoles d'art, notamment, qui passe aussi pour un classique du discours critique sur la modernité et sur l'analyse de la montée des nazismes et des fascismes, du nazisme et des fascismes. Mais Benjamin Adorno, en 1934, écrivait encore dans des revues sous l'égide du régime nazi, et surtout pour demander qu'ils soient plus radicaux encore par rapport à la mainmise sur les radios pour supprimer toute musique nègre, c'est ces mots, sur les ondes allemandes. Et puis Adorno aussi, quand on regarde un peu de plus près, est celui qui conseille à Benjamin, vous voyez Benjamin qui passe encore aujourd'hui pour le grand pourfendeur des régimes totalitaires, pour la victime absolue du nazisme, puisque vous le savez, il est mort à Portbou en 40 en essayant d'échapper à la Gestapo d'un côté et aux franquistes de l'autre. Adorno, dans plusieurs lettres, dit à Benjamin, mais tu comptes partir, il était en Espagne à ce moment-là, reviens, et je te conseille même d'écrire pour demander ton adhésion à la chambre des lettres du Reich, sous l'égide aussi de Goebbels. On peut aussi s'interroger, et on le fera sur Heidegger dans cette conférence, mais aussi sur le lien d'Hannah Arendt à Heidegger, par exemple, ou sur le fait qu'Hannah Arendt, qui est née en 1906, ne commence son œuvre vraiment qu'en 49, mais qu'avant ça, c'est une universitaire qui, sous l'égide de Jasper, c'est dans l'admiration folle d'Heidegger, suit absolument ce que l'université allemande est en train de devenir. C'est seulement après-guerre qu'elle entame une œuvre, mais qu'elle n'a pas engagé de combat ou de résistance avant. On peut penser à des gens plus classiques et célèbres aussi, comme Thomas Mann, comme Stefan Zweig, qui, jusqu'en 1936, mettent vraiment du temps avant de réagir et rentrer dans un combat. Aussi des gens moins connus, comme aujourd'hui, comme Gottfried Benn, mais qui était un écrivain expressionniste de premier plan, adulé par énormément de monde, et qui a alors celui-ci, c'est très singulier, et on en parlera beaucoup plus dans les questions autobiographiques, qui a voulu adhérer vraiment à la nouvelle culture qui se mettait en place en 1933, puis qui s'est fait jeter, parce que souvent c'est le cas, en fait, c'est que généralement les artistes ou les écrivains qui au début ne se voient pas clair aiment plus le nazisme généralement que les nazis ne les aiment. Donc souvent il y a des configurations avec le recul qui paraissent complètement ironiques et tragiques, quoi. Bref, j'ai pris à bon escient des exemples connus encore jusqu'à nous tout de même pour vous montrer que on peut, à partir de là, de ce problème du haut nom de ou de cette absence de référent, essayer de laisser ouvert cette place d'ambivalence dans l'engagement, dans l'action, dans la vie, dans les œuvres, et de laisser planer voilà, ce doute comme une trace voilà, de cette absence de référent, comme Schurman le diagnostiquait et comme Agamben le diagnostique pour aujourd'hui, mais en fait depuis les années 20. Et ce qui va ouvrir les prochaines séances à partir de ce on, on, de, c'est d'essayer d'échapper à deux, je parlais de verbiage tout à l'heure, mais deux extrémités de l'analyse qu'on essaie toujours d'entreprendre. C'est soit privilégier l'œuvre au détriment de la biographie, ou bien de privilégier la biographie au détriment de l'œuvre. Donc de souvent aussi héroïser des vies, mais sans œuvre, ou bien dont l'œuvre s'est épuisée uniquement dans l'engagement. Ça a été, j'en ai parlé la fois dernière, lié au fait aussi que après-guerre, dans les 60-70, il y a eu vraiment, par le structuralisme, le post-structuralisme, l'idée que l'auteur finalement n'existait pas, que ne comptait que le texte, que l'œuvre, et que l'auteur était une abstraction finalement, ou une autorité dont il fallait se défaire. Ou bien on avait affaire à la moraline de base, au biographe de petit commerce, qui ne s'intéressait qu'au biographème, et qu'à au petit caillou dans la chaussure, peut-être un peu comme je viens de le faire maintenant en introduction, d'une vie, en ne considérant pas ce que l'œuvre peut avoir de magistral ou d'importante pour une époque. Et je pense qu'on peut échapper à ces deux dilemmes, moraux d'un côté et historiographiques auteurs de l'autre, en s'intéressant à des logiques. Alors c'est un peu ça que je vais essayer de mettre à l'épreuve avec vous aujourd'hui, de voir s'il n'y a pas quand même des logiques et des lieux de réflexion qui permettent d'y voir plus clair, de souligner voilà, une alarme, sur base de l'expérience du XXe siècle, les dangers. Et c'est pour ça que j'ai pensé que le temps, enfin j'ai pensé, je suis arrivé à une forme d'état de travail où les notions de temps, ce qu'on verra aujourd'hui, les notions d'art et les notions de biographie ou de rapport à soi et d'écriture de soi, étaient les trois lieux où pouvait se nouer quelque chose qui marquait comme des lignes de démarcation, des lignes de fuite par rapport à ces faux problèmes moraux ou structurels, on va dire, quant à l'engagement de certains auteurs et du rapport entre la vie et l'œuvre. Pourquoi le temps ? Parce qu'il a été d'abord au cœur de diagnostics qu'on a portés sur cette absence de principes de référent. Et je pense qu'il y a eu deux grandes réponses à cette absence de référent. Quand on pense au temps, il y a l'histoire, il y a la chronologie. La première réponse a été de taxer cette absence de référent ou de principes hégémoniques à la question du nihilisme. Et l'autre grande manière de répondre à ces questions a été celle du messianisme. En gros, et on verra à travers les exemples comment ça a été vraiment structurant pour un débat intellectuel dans les années 20 et jusqu'à l'après-guerre, les questions du nihilisme et du messianisme sont les deux réponses, en termes de lecture du temps, de cette absence de principe hégémonique. Parce que si cette absence de principe, on en prend acte, on se dit en effet il n'y a plus rien. C'est comme ça remonte déjà à Nietzsche quelque part, le diagnostic du nihilisme, c'est qu'il n'y a plus rien auquel référer l'action, auquel référer la pensée, il n'y a plus que des rapports de puissance ou de force, il n'y a plus que des manières finalement de se soutenir dans le monde à partir d'un caractère, d'un tempérament, d'une biologie, peu importe. Bref, il y a cette question du nihilisme et d'en prendre acte ou pas acte. Et on verra avec Heidegger et Junger comment cette chose a été traitée. Et puis, il y a l'autre versant, qui est le versant, on va dire, messianique, c'est-à-dire, OK, il n'y a plus de référent ultime auquel rapporter l'action. Ça veut dire que nous sommes dans un temps de l'attente ou un temps du délai ou un temps de la rétention, un temps de l'absence, ou un temps de la disparition des dieux ou de l'enchantement du monde, et que donc on doit se mettre dans la disposition d'attente d'une nouvelle parole ou d'une nouvelle présence, donc ce qu'on entend pour le messianisme, une parole prophétique ou une attente d'une rédemption. C'est pour ça que je pense que la lecture des années 20, des années 30 et jusqu'à nous, hein, parce qu'on va, j'espère que ça va se traduire, ces postures nihilistes messianiques, en fait, je pense, sont aussi, on le verra, je pense, mieux avec des exemples, aujourd'hui, traversent encore les positions qu'on peut avoir sur le monde, les enjeux politiques. Mais bref, ce que j'aimerais bien arriver à formuler, c'est l'idée que, loin de s'opposer aussi, nihilisme et messianisme, on partage un même rapport à l'histoire et au présent. Et c'est ce partage d'un commun, et on verra lequel, d'une analyse commune par rapport au temps et au présent qui est donné, qui crée des zones de confusion et d'accord qui, soit, dans le meilleur des cas, renvoient à une forme d'impuissance, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas agi, qui n'ont rien fait pour empêcher une catastrophe ou le pire, ou qui s'y sont rendus aveugles, soit l'ont accompagné. Mais dans les deux cas de figure, en fait, le nom sur lequel on peut réunir cette rencontre entre messianisme et nihilisme, c'est que c'est une mentalité, en tout cas par rapport au temps, apocalyptique. C'est-à-dire que soit la chose est arrivée et c'est la fin, et alors la fin, il faut la surpasser ou bien l'approfondir pour que quelque chose se produise, après la fin, soit on se met en attente d'une nouvelle parole ou d'un prophète ou d'un fureur, et on attend sa reconnaissance. Et c'est ce qui s'est passé souvent, c'est que ce temps messianique a pu être sécularisé quelque part et trouver son incarnation en différents leaders politiques dans ces moments-là. Alors, on va commencer par la partie nihilisme, et je commencerai avec une citation qu'il énonce en 41, plein pendant la guerre. Alors, Léo Strauss, c'était un des philosophes, alors c'est étonnant, qui a pu être aidé dans les années 30 par Carl Schmitt, dont on parlera après, pour obtenir une bourse pour partir aux États-Unis sous l'égide de la fondation Rockefeller, et puis après qui est devenu un des grands mentors de l'école de Chicago, c'est-à-dire qui passe aujourd'hui parfois pour réactionnaire, mais en tout cas pour l'école qui assumait l'incarnation, la perdurance des valeurs universelles, des droits de l'homme et de la Révolution française, et de la haute culture et de la civilisation. Et Léo Strauss, en 1941, lucide, c'est un texte qui est écrit pendant la guerre, de soutien quand même aussi à la mentalité anglo-saxonne, va décrire déjà quelque chose qui s'est stabilisé et qui sera revendiqué encore par Heidegger et Junger après. Il dit « Ce qu'ils haïssaient, c'était précisément la perspective d'un monde dans lequel chacun serait heureux et satisfait, dans lequel chacun aurait son petit plaisir diurne et son petit plaisir nocturne, un monde dans lequel chacun, qu'un grand cœur ne pourrait battre et aucune grande âme respirer. » Un monde sans sacrifice réel, autre que métaphorique, c'est-à-dire un monde ne connaissant pas le sang, la sueur et les larmes. Ce qui paraissait aux communistes la réalisation du rêve par excellence de l'humanité était pour ces jeunes Allemands le plus grand avilissement de l'humanité, la fin de l'humanité, l'apparition du dernier homme. Alors Léo Strauss, très lucidement, voit déjà à ce moment-là, alors que beaucoup de gens essayent encore d'amoindrir, tergiverser ou de ne pas voir la réalité, et de nommer presque, ils n'en parlent, ils ne citent jamais leur nom, enfin, ils sont très évidents, deux personnalités qui sont Ernst Junger et Martin Heidegger. Parce que pour les deux, Heidegger comme Junger, la catastrophe a été celle de la perte de la guerre, 14-18, plus encore le traumatisme absolu de la révolution Spartakis, qui a très vite été pourtant tannée par le sang et par justement l'appui et l'aide des corps francs qui étaient ces anciens militaires de la guerre 14-18. Mais enfin, il y a eu quand même des mois d'effervescence et une proclamation d'une république soviétique à Berlin en novembre 19. Bref, Junger et Heidegger sont non seulement traumatisés par la perte de la guerre, les valeurs qu'elle incarnait, guerrières principalement, héroïsme, sueur, sang et larmes, comme Léo Strauss le dit, mais aussi par la possibilité proche en Europe de l'instauration du Conseil de Soviète, d'un régime communiste, par Liebknecht ou Rosa Luxembourg, qui était en plus beaucoup plus libertaire et pas du tout pré-stalinien, entre guillemets. Et donc, Junger et Heidegger sont des intellectuels, des penseurs qui vont vraiment tout faire pour ne jamais faire en sorte que la République de Weimar, son système démocratique, les élections, le régime présidentiel et parlementaire, puissent fonctionner normalement. Ils vont toujours même avoir que mépris et des considérations pour ce régime parlementaire, comme si c'était un avilissement des idéaux français des Lumières de 89, comme si c'était le faux progressisme et la fausse avancée des sciences positives du XIXe siècle qui commençait à s'incarner en Allemagne au moment de la République de Weimar. Mais ce qui est troublant, c'est que Léo Strauss, il pense ce diagnostic en 1941, mais que Heidegger et Junger, il y a une correspondance qui n'est pas géniale, où on n'apprend rien, sauf si on est conforté dans ce qu'on pensait déjà. Mais plus intéressant, il y a deux textes qui se répondent. Il y a Junger qui, en 1951, donc 10 ans après le texte de Strauss, écrit un texte qui s'appelle « Passage de la ligne ». Et qui est écrit en l'honneur des, je ne sais plus quel âge, enfin pour l'anniversaire d'Heidegger. Je ne sais plus pour quel, je n'ai pas vérifié pour quel âge il avait. Et Heidegger écrit un texte qui s'appelle La Ligne, qui a été publié en français après sous un autre nom, je ne sais plus, qui remercie Junger, mais ça fait 50 pages, et dans lequel il redéploie sa pensée de l'être à partir du diagnostic du nihilisme qu'apportait Junger dans ce texte qui s'appelle Passage de la Ligne. Et on va lire deux extraits du texte de Junger, pour voir à quel point est contenu dans cette manière de lire l'histoire, qui n'est pas une manière linéaire, des Lumières, du XIXe siècle et progressiste, comment cette manière de lire l'histoire permet un diagnostic, on va dire, épochal. C'est une manière de dire, on arrive dans un temps, et ce temps, on le nomme le temps du nihilisme, et à partir de là, quelque part, c'est ce qu'ils disent, tout est permis. C'est-à-dire, ils pourront faire après les malheureux, et c'est ce qu'ils font, puisqu'ils écrivent ce texte en 51. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils maintiennent quelque part leur cadre de pensée sans l'avoir bougé, ou en le traficotant un peu. Mais par exemple, en 86, déjà, enfin oui, j'avais mis une autre petite citation avant, bah, je vais dire, bon, lire celle de Passage de la Ligne, ah non, c'est 50, pas 51, pardon. Junger écrit ceci. Le décisif reste de savoir jusqu'à quel point l'esprit se subordonne les destructions nécessaires, et si la marche à travers le désert mène à des puits nouveaux. Telle est la tâche que recèle notre époque. Pour autant que la solution dépend du caractère, chacun y prend sa part. Il y a donc une question de valeur fondamentale à laquelle il faut soumettre de nos jours les êtres, les œuvres, les institutions. C'est la suivante. Dans quelle mesure ont-ils passé la ligne ? Il écrit en 51, mais c'est son vocabulaire, en fait, déjà des années 30. Au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a ce vocabulaire très présent. Et après coup, ils vont dire, tiens, notre diagnostic du nihilisme était juste, parce que vous avez vu, Hitler, c'est la catastrophe, ça a été la destruction. Mais en fait, ils ont parfaitement contribué. Ils ont pu le nihilisme, c'était l'arme qu'ils ont pu retourner contre ceux qui les ont accusés après, évidemment. Donc, voilà, vous voyez bien le monde dans lequel on est. Il y a eu la destruction et il n'y a toujours rien à l'arrivée. On n'a toujours pas expurgé, quelque part, ce qui a conduit au nazisme, alors qu'eux-mêmes étaient partie prenante. C'est l'idée, il le dit encore, voilà, Junger, dans un entretien à Julien Harvey, qui est son traducteur français et biographe, en 86, Junger a vécu très longtemps, il est mort il n'y a pas si longtemps. « Pour moi, le dernier homme est avant tout un fantôme, l'homme qui vit au milieu du confort, tel que le dépeint Nietzsche dans Zarathoustra, n'est encore que l'avant-dernier, et il en surgira bientôt un autre. » Mais encore en 86, quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que Heidegger comme Junger sont toujours lus et commentés. Hein. Mais quand on voit ça, moi, je sais pas, je trouve que ça donne des frissons. Et pourquoi ? Parce que ce passage de la ligne, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'ils ont cherché dans les années 20 et dans les années 30. C'est la description d'un site qu'on va décrire comme nihiliste. Et Junger, dans les années 20 et les années 30, décrit Le Travailleur, qui est un texte qui est devenu canonique pour l'intelligentsia nazie, c'est-à-dire c'est la volonté de puissance du travailleur sans plus aucun horizon, justement aucun idéal, aucun référence, c'est une masse qui est mobilisable, c'est ce qu'il va appeler la mobilisation totale, dans le but de, quelque part, sortir du diagnostic du nihilisme. Et du coup, il y a toujours eu deux balancements. C'est-à-dire, le nihilisme, c'est ce qu'il appelait nihilisme passif et actif, c'est ce qu'il diagnostiquait comme étant présent, et donc médiocre et à devoir surmonter. Mais il y a le nihilisme actif, dont est porteur le travailleur, et qui pourra s'incarner dans un régime autre que présidentiel ou parlementaire, qui est celui qui va réussir à avoir assez de force pour surmonter le désastre et aller plus loin, quelque part, dans l'aggravation de la situation. Donc il y a une indifférence au bien et au mal, la description prévaut sur un horizon d'attente, et c'est l'idée qui perdure encore chez plein de gens aujourd'hui, que finalement, mieux vaut aggraver une situation sans valeur que de recréer des nouvelles valeurs ou de maintenir la destruction. C'est l'idée que le passage à la ligne, c'est ça. C'est que tant qu'on se tient sur la ligne, on ne vit que le désastre de manière passive, alors que si on est devenu acteur ou qu'on essaye d'y participer, de l'aggraver, quelque part, faire mourir plus vite le monde qui est mourant, quelque chose comme un nouvel homme pourrait amener son visage, faire signe au-delà du passage de la ligne. C'est aussi cette expression qui fait Flores à cette époque et jusqu'à aujourd'hui auprès de certains heideggeriens, c'est celle de Hölderlin, ce poète de la fin du XVIIIe, qui avait écrit cette phrase célèbre « Là où croit ce qui perd, croit aussi ce qui sauve ». C'est quelque part ce qu'on pourrait dire la logique du pire. Mais là, à la limite, tout pourrait encore être assez simple et assez clair. Junger, nihilisme, en gros, ce sont les méchants. Ils ont contribué, enfin, l'effet, tout est là, évidemment. Même si après, Junger n'aimait pas les nazis, il avait toujours cette idée de la Wehrmacht et puis chevaleresse, des soldats et tout. Mais enfin bref, c'est des gens qui ont contribué à la venue d'Hitler au pouvoir et puis qui n'ont jamais quitté, jamais parti en exil, qui n'ont jamais combattu Hitler non plus. Mais plus on va essayer de complexifier un peu la chose. Alors récemment, par exemple, Georges Dieberman a écrit un article sur Heidegger et Benjamin, à partir de la question du temps, justement. Et il montrait en quoi, chez Heidegger, il y a une idée du temps qui est un temps racine, ou qui est un temps de l'œuvre d'art en tant qu'elle est enracinée, authentique, dans un sol, dans une culture, ou qu'elle renvoie aux origines de la civilisation qui serait la Grèce, cette espèce de rêve d'Heideggerien, d'une Grèce presque nordique, quoi, une Grèce germanique, où l'art ne vaut que si il est dans quelque chose du natif, d'origine fondée, enracinée dans le sol. Dans son texte de 37 sur l'origine de l'œuvre d'art, par exemple, c'est toute l'analyse sur les souliers de Vincent Van Gogh à Arles, où voilà, c'est la terre, l'ancrage. Et il opposait la pensée de ce temps-là d'Heidegger, le temps benjaminien, un temps qui serait plus un temps de l'origine et du renvoi aux racines, mais un temps tourbillon ou un temps évanescent, un temps qui secoue le présent en mélangeant les époques, un temps plutôt déraciné, un temps tourbillon. D'un côté, il y aurait l'assomption des racines, du natal et du sol, et de l'autre, il y aurait une forme de temps beaucoup plus impalpable, mais qui serait pour le coup un temps messianique. Parce que c'est ici qu'on va voir la transition entre cette analyse du nihilisme et ce qui a voulu être une opposition, qui était le messianisme et qui a partagé beaucoup de choses communes, c'est que Georges Lieberman ne voit pas pourtant que Heidegger et Benjamin partagent un socle commun. Un socle commun dans la mesure où Benjamin, quelque part, donne à Heidegger l'avantage du terrain sur lequel combattre. C'est-à-dire que Benjamin va s'inscrire, lui, dans un mouvement qui, au même moment que quasiment ces vieux guerriers que sont Junger, prend essor en Allemagne, qui est un mouvement de fièvre mystique. Si vous voulez, déjà très tôt, même avant-guerre en fait, c'est point lié à la Première Guerre mondiale, il y a toute une réaction par rapport à Kant ou à l'idéal des Lumières. C'est-à-dire une réaction à la séparation entre la foi et la raison, une contestation de la séparation entre la religion et la philosophie. Et les idéaux des Lumières en Allemagne étaient incarnés par ce qu'on appelait la science, par exemple des philosophes comme Husserl, par Max Weber. C'était une alliance quelque part entre le protestantisme, issu de Luther et Calvin, et les juifs. Il y a ce qu'on appelait les juifs d'assimilation, Husserl, tout ça, Weber. C'était une manière de trouver un compromis entre, pas à la fois la raison, mais sur la raison. C'était l'idéal des Lumières qui s'incarnait et qui était porté par cette alliance entre juifs et protestants en Allemagne. Et ce qui éclate, aussi bien avec Junger et Heidegger qu'avec des gens comme Benjamin, c'est cette alliance qui incarnait l'idée de science, comme Van Zeder l'a écrit sur le savant, cette idée qu'il y a une science, en effet, positive, issue du 19e, qu'il faut protéger des intérêts politiques, qu'il faut protéger des cultures locales et qui est universelle pour tous. Et c'est même dans le groupe de Max Weber que des gens comme Lukács, par exemple, ou Ernst Bloch, vont prendre essor en revendiquant le réengagement dans la sphère messianique et religieuse. Mais c'est partout, en fait. C'est au même moment aussi où Martin Buber, qui après, qui a beaucoup écrit sur les récits hassidiques, qui a été une figure très, très importante, qui s'est beaucoup engagé après en Israël, réintroduit tout le religieux dans la philosophie à partir de la tradition juive. C'est la même chose pour Franz Rosenzweig aussi, qui est morte sur le front, mais qui a, dans la lignée d'Hegel, réécrit toute une histoire de la philosophie qui ne se voulait finalement qu'une histoire de la révélation à l'aune de la Torah. C'est aussi le cas plus tard de Levinas, par exemple, qui est l'héritier de tous ces mouvements-là, de réassomption du religieux et du messianique dans la philosophie. Mais, par exemple, Bloch et Lukács participent énormément aux années 20, sont très engagés à gauche, comme aussi des Landauer ou des Anstoller. Ce sont des gens qui participent pour la plupart aussi à la révolution spartakiste. Et cette révolution communiste spartakiste en Allemagne est portée avant tout, plus que par des êtres marxistes orthodoxes purs qui seraient attachés à l'économisme ou aux règles rationnelles de Marx et du 19e siècle, sont portés avant tout par une foi messianique, c'est-à-dire le marxisme peut trouver une incarnation réelle et est quelque part un aboutissement presque religieux de l'espoir et de l'espérance humaine. Et il y avait par exemple Émile Lasse qui était un néo-kantien, comme l'était aussi Cohen et Cassirer, qui étaient les grands représentants de cette association protestant-juif qui explose là sous le messianisme, qui disait quels sont les noms des quatre évangélistes, Matthieu, Marx, Lukács et Bloch. Alors Lukács après a été même un dirigeant en Hongrie du Parti communiste et Bloch a vécu très tardivement. A été un grand défenseur de l'expressionnisme, alors que Lukács, pas du tout. Donc c'est marrant, comme ça, déjà à l'époque, il y avait deux visions de l'expressionnisme, comme si, déjà à l'époque, parce que c'est pas un regard introspectif, on voyait bien que l'expressionnisme pouvait conduire aux pires engagements nazis, comme au meilleur gauchisme que l'époque pouvait produire. Mais voilà, il y a cette effervescence-là qui arrive. Et alors, puisque par rapport à Heidegger, la préhension que je voudrais vous faire partager de Benjamin aujourd'hui, c'est par rapport aussi à Carl Schmitt. Parce que ce terrain du messianisme, en fait, comme on l'a dit pour le nihilisme, sera partagé par les forces les plus réactionnaires. Et celle qui incarne la force la plus réactionnaire à l'époque, au niveau juridique et au niveau messianique, c'est Carl Schmitt, qui a été un grand juriste de la République de Weimar, et puis qui s'est tout de suite affilié au régime nazi, a proposé ses services, a été le conseiller de Goebbels, de Göring, et a eu même encore une carrière bien après-guerre, même s'il a été un peu emprisonné pendant 7 mois. Et il y a Jacob Taubes, qui est un philosophe d'après-guerre, juif, messianique aussi, mais a pointé des choses extrêmement intéressantes. Il y a un rapport entre Benjamin et Carl Schmitt qui, comme le dit Taubes, est prêt à faire sauter quelque part toutes les clés de lecture habituelles qu'on peut avoir des années 20 et des années 30. Parce que ce qui est très troublant, c'est qu'entre Walter Benjamin, que vous connaissez quand même, j'imagine, voilà, vous avez une idée de lui comme cette incarnation du juif messianique qui, après avoir réfléchi sur les arts, sur le statut de l'aura, de l'œuvre d'art, qui voilà, rencontre à Capri, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, une femme très engagée, russe, communiste, bref, mais rencontre le marxisme et maintient quelque part à la fois l'ordre religieux et l'ordre révolutionnaire au sein d'une même pensée. Et Carl Schmitt, comme je le décris, qui est ce personnage juriste qui fait encore florès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la gauche aujourd'hui qui revendique encore des concepts et des notions de Carl Schmitt. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas que des vieilleries un peu oubliées et enfouies. C'est que Carl Schmitt, par la notion d'ami et d'ennemi qu'il a inventé, on verra pourquoi, est encore, par exemple, revendiqué par des gens comme Chantal Mouffe ou des gens comme Alain Badiou, c'est-à-dire des gens qui pensent que le monde peut toujours encore être partagé, coupé en deux. Mais bon, voilà, ce que j'essaie de décrire ici est aussi, à mon avis, un peu politique, c'est-à-dire qu'il y a là un danger qui est encore réel, je pense, aujourd'hui. Et ça va se retrouver autour de trois points, cette rencontre entre Benjamin et Schmitt, ce partage du terrain vaseux des années 20 et 30, où on est renvoyé soit à accompagner le désastre, soit à se rendre impuissant. Comme Benjamin l'a été, il a été impuissant. Contrairement à d'autres, hein, c'est pour ça que, par contre, contre le sacre Benjamin, j'aime bien quand même porter quelques coups, parce que c'est important de mettre à jour des choses qui sinon ressurgissent aujourd'hui bizarrement. Mais ces trois points de rencontre, et qui seront les trois critères quelque part que je voudrais développer par rapport au temps aujourd'hui, comme des marqueurs, c'est ce mélange du sacré et du profane. L'histoire, ce n'est pas juste la succession des jours, ce n'est pas le progrès linéaire, ce n'est pas les causes et les effets, non, c'est aussi des temps qui se mélangent entre le profane et un temps religieux ou obscur ou enfoui ou caché, mais qui est un temps sacré. C'est aussi rechercher chaque fois, dans le présent, dans la situation que vous avez faite, une forme de point authentique, ou de point qui fonde, ou un point d'exception, quelque chose qui peut couper le monde en deux. Et le présent serait le lieu où cette chose peut arriver. Et c'est troisièmement cette tonalité apocalyptique ou messianique que donc le temps est un temps de l'attente ou du délai que quelque chose arrive. Et ces trois points sont ce qu'on en partage vraiment Walter Benjamin et Schmitt. Parce que Schmitt, Carl Schmitt, est un penseur très connu à l'époque et qui aujourd'hui est encore une référence pour toute une partie de la gauche, qui n'a jamais cru à la sécularisation, qui n'a jamais cru à les idéaux des Lumières. Il pense qu'il n'y a pas d'un côté pour le droit l'idée du naturalisme, que les droits des individus tombent du ciel et qu'on doit préserver le droit naturel de l'homme, quoi. Il ne croit pas à ça. Et il ne croit pas non plus au droit positif, à la Kelsen. Il ne croit pas que les dieux se sont retirés, que le religieux s'est parti, qu'il y a une sécularisation et que le système juridique parlementaire européen, issu des Lumières, puisse tenir sur ses pieds. Si on lui retire les béquilles qui sont en fait ses anciens fondements religieux divins. Alors, il y a des arguments qui peuvent être très convaincants. Et je vais vous parler de deux, trois citations de Carl Schmitt. C'est que pour Carl Schmitt, la règle n'est jamais ce qui est intéressant à penser. Mais ce qui est intéressant à penser, c'est l'exception. Il dira, par exemple, la situation exceptionnelle a, pour la science juridique, une signification analogue au miracle en théologie, il faut lire. Son premier livre s'appelle d'ailleurs, en 22, « Théologie politique ». De la même manière, il dit que la règle ne vit que par exception. Donc c'est vraiment des traces, pour lui, du religieux. C'est-à-dire que la règle, quelle que serait l'issue du rationalisme et des Lumières, un état stable de la loi, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La vie juridique, la vie d'un individu ne peut toujours se mesurer que quand il y a exception. Que c'est à cette zone-là qu'on peut inventer la règle, et non pas par la raison ou par un fonctionnement canonique, on va dire, des lois. Alors que pour lui, le rationalisme condamne l'exception sous toutes ses formes. Du coup, il va en découler une autre idée, qui est cette idée dont je parlais tout à l'heure, d'authentique ou de ce qui fonde, et de comment on gère l'exception, c'est l'idée de décision. Il dira, cette phrase devenue célèbre, « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Il écrira en 32, un article qui s'appellera aussi « L'égalité et légitimité ». Pour lui, c'est l'autorité qui va faire la loi et non plus la vérité. C'est pour lui l'idée qu'au-delà de l'égalité, il y a toujours une question de légitimité à aller chercher ou retrouver. Et là, l'égalité ne dit rien, elle ne dit qu'un état de fait. Et la chose devient intéressante par rapport à une lecture du temps ou d'une époque, que quand on interroge la légitimité de cette légalité à partir de l'exception. Et vous voyez bien, du coup, que celui qui est important pour Carl Schmitt, c'est celui qui va décider à un moment donné la nature de l'ennemi et de l'ennemi. Celui qui va se mettre en capacité de déclarer l'état d'exception. Et donc, évidemment, vous voyez la connivence et les dangers qui peuvent apparaître quand quelqu'un qui se présente comme pouvant incarner cet état d'exception, cet état de décision entre amis et ennemis, et la situation d'exception apparaît, en l'occurrence Hitler, très simplement, Carl Schmitt fait des bons, quoi. Il est contre. Et va tout de suite se ranger sous son autorité et proposer ses services, et ça va fonctionner d'ailleurs. Ce n'est que vraiment tardivement que Carl Schmitt sera un peu mis aux oubliettes, et encore avec un poste confortable à l'Université de Berlin. Et puis, troisièmement, cette idée d'apocalypse et de messianisme, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le catéchon, en référence à Saint Paul. Saint Paul, c'est une grande référence pour lui. C'est l'idée qu'il va déjà mettre en œuvre, lui dira qu'il a mis en œuvre dès 32, mais c'est l'idée par laquelle il va s'en sortir après-guerre, pour dire « j'ai tout fait pour justement préserver, face aux communistes, la stabilité de l'État ». J'ai voulu en effet un régime plus présidentiel pour que justement on puisse empêcher Hitler d'arriver au pouvoir, pour casser la logique des partis qui devenaient impuissants et ainsi de suite. Mais en fait, ce n'est pas tellement vrai. Mais cette logique apocalyptique et messianique pour lui, lui a permis après aussi de dire par ce qu'il appelle le catéchon et par des lectures qu'il a fait de saint Paul, mais je ne sais pas quelle heure il est, parce que sinon, ouais, je vais peut-être passer cette lecture-là qui est un peu longue, par le catéchon. Le catéchon, c'est ce qui retient chez saint Paul. Il y a Satan, il y a l'Antéchrist, et tant que cet Antéchrist et Satan est retenu, l'Apocalypse ne peut pas revenir, ne peut pas arriver. Et c'est quand on libère ce moment que des énergies vont apparaître ou que voilà, le Messie peut apparaître. Et Carl Schmitt dira, ben moi j'ai joué ce rôle de l'attente et du délai, j'ai voulu contenir Satan et l'Antéchrist, la figure de Claire. C'est ce qu'il a dit après pour s'en sortir. Mais toujours en restant sur cette idée messianique. Et on voit que toutes ces idées-là sont quelque part partagées par Walter Benjamin. C'est Jacques Optobs qui, comme je le disais, a beaucoup mentionné ce lien obscur, un peu oublié et enfoui, mais ce terreau commun d'un endroit de pensée propre à Carl Schmitt et à Walter Benjamin. Benjamin, dans un premier texte qui fragmente théologie géopolitique en 21, puis dans un texte qui s'appelle « Critique de la violence », puis dans ses thèses sur l'histoire devenue très célèbre qu'il écrit à la fin de sa vie, suit quasiment le même mouvement et les mêmes points que je viens d'annoncer concernant Carl Schmitt, c'est-à-dire l'idée d'un mélange du sacré et du profane, l'idée de trouver un point authentique de légitimité, et l'idée d'une apocalypse ou du messianisme, de la venue du Messie pour réaliser un bonheur sur Terre. Dans le premier fragment théologique politique, il dit « Seul le Messie lui-même achève la totalité des événements historiques, en ce sens que seul il délivre, achève et crée la relation entre ceux-ci et le messianisme lui-même. » Plus tard, dans un texte qui s'appelle « Critique de la violence », qu'il écrit en 30, 30 c'est une année aussi où plein de choses se passent, il y a des gens comme Stephen Zweig, Thomas Mann s'aveugle encore, alors que plein d'autres commencent à ouvrir les yeux. Mais dans « Critique de la violence », Benjamin va s'interroger sur le deuxième point, c'est-à-dire la question de la légitimité, il va se demander quel est le rapport entre les moyens et les fins, et comment est-ce qu'on peut justifier l'obtention d'une fin en fonction d'un certain moyen, et quel est, à un moment donné, le critère ultime qui va pouvoir en légitime ou légal tel type d'action en fonction de tel objectif ou de telle vue. C'est la question de l'authenticité, du point d'exception sur lequel on peut se rabattre pour légitimer une action. Et enfin, dans ses derniers textes, avant de mourir, dans sa huitième thèse sur l'histoire, il écrit ceci. « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception dans lequel nous vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de l'histoire qui rende compte de cette situation. » Nous découvririons alors que notre tâche consiste à instaurer le véritable état d'exception et nous consoliderons ainsi notre position dans la lutte contre le fascisme. Celui-ci garde au contraire toutes ses chances face à ses adversaires qui s'opposent à lui au nom du progrès, compris comme une norme historique. Donc ici aussi, le progrès, la sécurisation, tout ça, ce n'est pas mon affaire, comme Carl Schmitt. Le terrain est le même. Il faut penser à l'exception. Mais comme s'il voulait jouer exception contre exception, enfin monter aux extrêmes. Comme s'il se concédait tout le terrain à Carl Schmitt, mais ici qu'il le pensait, d'un point de vue à la fois messianique à partir de l'exception, mais comme au service des opprimés. Mais il y a des choses plus étranges. C'est que ce n'est pas l'oubli de Georges Didier Berman, dont je parlais tout à l'heure, presque volontaire, parce que Jacques Optobs a exhumé des lettres, très étrangement, et une lettre en particulier, que Adorno n'a pas mis dans les recueils des lettres complètes de la correspondance de Benjamin après sa mort, qui est une lettre que Benjamin a adressée en 30 Carl Schmitt. Alors on est déjà quand même vachement tard. Hein. Et Jacques Optobs qui a montré à quel point les relations entre... Enfin, les pensées de Carl Schmitt et de Benjamin étaient extrêmement concordantes sur ces questions du temps, la lecture du temps, de l'histoire et du messianisme. Il a même été plus loin, Jacques Optobs, parce qu'il était juif, il a été victime de ce que Carl Schmitt a fait quelque part. Et il y a une anecdote qui est très, pas rigolote, mais très intéressante, c'est que Taube se rend compte que Carl Schmitt, c'est important. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 20, les années 30, il faut comprendre Carl Schmitt. Et il écrit à Armin Möller, le secrétaire de Junger, en années 50, comme quoi tout se tient, hein. Je voudrais avoir votre avis, parce que je n'arrive pas, je suis juif, je suis moi-même victime de ces gens-là, mais je n'arrive pas à penser que ces gens-là étaient des idiots. C'est une pensée, des pensées construites, c'est des pensées intelligentes, j'aimerais bien avoir votre regard et tout. Il se prie bien d'écrire à Carl Schmitt, mais Möller, qui connaît bien Carl Schmitt, transfère cette lettre à Carl Schmitt. Et pendant des années, Carl Schmitt a dit, vous voyez, celui qui m'a le mieux compris, c'est un juif. Donc un truc assez étonnant. Et seulement, et pendant 20 ans, jusqu'à, 74, jusqu'à fin 70, Carl Schmitt a envoyé tous ses livres à Jacob Taubes, suite, après avoir reçu cette lettre par les mains d'Armin Möller, le secrétaire de Junger. Et Taubes a toujours refusé de répondre ou de correspondre avec Carl Schmitt, sauf à partir des années 80. Et il y a une correspondance, Jacob Taubes et Carl Schmitt, qui est extrêmement troublante et qui remet à nouveau, enfin, qui permet de relire à nouveau frais vraiment toute cette période-là. Il y a d'autres éléments très troublants, c'est par exemple Taubes qui raconte que quand il reçoit Kojève dans les années 70 à Berlin, Kojève ne veut faire qu'un voyage après. Kojève qui était quand même le grand hegelien, grand constructeur de l'Europe, grand libéral, quand il est en Allemagne, qu'il est en Berlin après-guerre et tout, il dit à Taubes, mais ouais, Carl Schmitt, je voudrais parler avec lui. Il dit, mais quoi, vous voulez parler avec Carl Schmitt? Il dit, oui, en Allemagne, avec une seule personne à qui il serait important de parler, c'est Carl Schmitt. C'est quand même très troublant, venant de la part d'Alexandre Kojève. Il dit aussi un truc plus fou, c'est qu'il est étudiant en Israël dans les années 50, et il veut travailler un livre de Carl Schmitt. Il y a encore des frontières, je ne sais plus quoi, entre la bibliothèque et l'université, tous les livres ne peuvent pas circuler. Et il demande le livre de Carl Schmitt qui est dans une bibliothèque, on ne peut pas parce qu'il est utilisé. On finalement on lui rapporte plus facilement. Et on lui dit oui, il était au ministère de l'Intérieur, parce que les constitutionnalistes israéliens étudiaient Carl Schmitt pour la fondation de l'État d'Israël. C'est quand même très troublant, quoi, très étonnant, comme quoi les choses... Bref, et Taubes exhume cette lettre de Benjamin, en 1930, qui dit ceci, enfin j'ai mis un extrait, pas si long, hein, mais enfin je l'ai coupé. « Cher monsieur, vous remarquerez très vite combien ce livre vous doit dans sa présentation de la théorie de la souveraineté du XVIIIe siècle. » Il s'agit du drame du baroque allemand. Qui était sa thèse de doctorat au départ. Permettez-moi de vous dire en outre que grâce à vos méthodes de recherche en philosophie de l'État, j'ai trouvé dans vos œuvres ultérieures, en particulier dans la dictature, une confirmation de mes méthodes de recherche en philosophie de l'art. Benjamin, qu'on enseigne dans toutes les écoles d'art, sans jamais mentionner ce que pourrait être l'origine de cette conception de l'art venant de Carl Schmitt. Si la lecture de mon livre vous permet de comprendre ce sentiment, l'intention de mon envoi aurait été exaucée. Tout ça pour arriver à poser ce moment de trouble et de connivence qu'il peut y avoir parfois entre aggravation de la catastrophe ou impuissance face à celle-ci, parce qu'on a cédé un terrain à l'ennemi, quelque part. Parce qu'on a reconnu que les méthodes ou ces manières de fonctionner ou de travailler ou de poser une question étaient légitimes par rapport à une situation et une lecture du présent, qui sont en l'occurrence une lecture nihiliste ou même messianique. Et celui qui a été le plus loin, je terminerai là-dessus pour être dans les temps. Enfin, t'as vu Nathalie, je respecte. Mais il y a une chose, voilà. Une personne avait vu cette connivence, à part Jacob Taubes aussi, c'est Paul Celan. On va terminer par la poésie, c'est un peu plus... Celan, en 67, avant 68, pendant les révoltes étudiantes, écrit un poème en lien avec Benjamin, parce qu'il rappelle que Benjamin, en effet, a dit est mort à Port-au-Bout de manière tragique en 40, en se suicidant, en pensant être pris ou par les franquistes ou la Gestapo, que Benjamin est resté en France donc très tardivement, bien sûr, pas toujours par sa faute, parce qu'il était très pauvre, mais en toujours voulant sauver une idée de la culture, ou de l'authenticité, ou de la haute culture, ou de la tradition, y compris allemande. Et tous les auteurs que Benjamin a toujours revendiqués étaient les grands auteurs de la tradition allemande. Et Paul Celan, c'est là en 68, en pleine révolte étudiante, qui se revendique déjà de Benjamin, écrit, c'est vraiment aussi très émouvant et très beau, mais en plein d'une lucidité extraordinaire, un texte qui s'appelle « Port-Bou allemand ». Donc pour vous, la ville frontalière entre les Pyrénées, la France et l'Espagne dans les Pyrénées, où Benjamin meurt en voulant fuir le nazisme. Celan écrit ce poème qu'il n'a pas pu lire directement dans un recueil qui s'appelle Port-Bou allemand, point d'interrogation. Alors je dois ça à un vieil universitaire mais incroyable qui s'appelle Jean Bollat qui a écrit un texte là-dessus et qui dit en gros l'adhésion tacite ou secrète ou même inconsciente de Benjamin à l'horizon qu'il a acculé à la mort. Et en fait, c'est très juste, je pense. C'est-à-dire que même ceux qu'on parfois on célèbre aujourd'hui comme des grandes victimes ou des grands... ont partagé, parfois inconsciemment ou pas, mais peu importe, mais, et c'est valable aussi pour Misane Dorvaux ou pour toute partie du Boz, ont participé, ont accepté le terrain même sur lequel on voulait poser les enjeux du présent. Et à ce titre-là, ils sont responsables de ne pas l'avoir ou combattu directement ou fui directement, mais d'avoir accepté les coordonnées temporelles et spirituelles qui étaient imposées. Alors, vous allez voir, cet élan, il est très difficile, mais il est très beau. Port-Bou allemand, archer tiré sur la coiffe magique et le casque d'acier. Nibelungen de gauche, Nibelungen de droite, rhénanisé, purifié, une scorie. Benjamin vous munit à jamais. Il dit oui. Une telle éternité aussi, comme Boaz, B, non. Pas de trop tard, une secrète ouverture. C'est la, voilà, une secrète ouverture. Alors, il dit ça parce que c'est qu'en 30, Benjamin écrit ce texte où il essaye de dire qu'il y a une tradition allemande secrète, bonne Allemagne quelque part, qui ne conduirait pas à la catastrophe. Mais en même temps, il le fait avec tellement dommage pour ceux qui vont conduire à la catastrophe qu'il dit oui. Donc Benjamin essaie de dire que derrière le casque d'acier, les Junger, c'était les casques d'acier, c'était d'ailleurs comme ça que son groupe s'appelait, il y a une coiffe magique en Allemagne qu'il aurait fallu exhumer, et bien Celan dit non. De la meilleure manière, il dit Nibelungen, c'était les petits nains en Allemagne qui sont les symboles mythologiques comme ça, qui étaient chez Wagner aussi, de gauche, de droite, rhénanifié, purisé, une scorie, peu importe de gauche ou de droite, c'est le même soubassement, même culture, même recherche d'authenticité ou d'exception allemande qui a conduit à unir Benjamin à ce qu'il a tué. Et ce qu'il dit dans le sens, il dit oui. Il dit une telle éternité aussi comme Boaz, B, non, pas de trop tard, une secrète ouverture. C'est une secrète connivence, vous savez, ce qui a rendu la chose criminelle et impossible. Et Jean Bollack, dans son commentaire sur ce texte de Celan, commente aussi cette affaire de Boaz. Il dit qu'on ne s'est jamais assez interrogé, et je pense qu'il a raison, sur les coordonnées mentales, intellectuelles, sur le partage de lecture du temps, progressiste, réactionnaire, qui était contenu dans le Boaz également, dans les années 20 et dans les années 30, comme j'ai donné quelques exemples d'ailleurs en introduction. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide ou trop compressé, mais je vous remercie pour votre attention.